Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Dr David Temset. Bonne écoute et bon limoud.
Au moins pour le principe de faire ce qu'on devait faire, et parce qu'on a quand même un moment assez privilégié qui arrive, là d'ici la semaine prochaine, c'est le moment de vendredi là qui vient, et puis le moment de l'Akba Omer. C'est la raison pour laquelle je voudrais juste vous faire un petit résumé rapide de ce qui va se passer. Vous savez que dans l'histoire des rabbins qui ont profondément marqué le peuple juif, depuis déjà des siècles et des siècles, il y a deux illustres rabbins. L'un qui s'appelle Rabbi Meir Bar Lanes, et l'autre qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce sont des noms qu'on connaît tous, des gens qu'on connaît, dont on rêve un petit peu. Vous savez que lorsqu'on va en Israël, il est très rare de ne pas aller à Tibériade, sur le tombeau de Rabbi Meir, et puis de demander à Rabbi Meir tout ce qu'on peut avoir besoin dans la vie. Et on dit que ce qu'on demande chez Rabbi Meir, ça se réalise. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Rabbi Meir Baal Hanes, celui qui fait des miracles. D'où vient ce nom de Baal Hanes? En quoi Rabbi Meir fait-il des miracles? Et puis, vous savez que très souvent, surtout à l'Akba Omer, là, si Dieu veut la semaine prochaine, dans une ville à côté de Tzfat, de Safed, qui s'appelle Méron, il y a une grotte dans laquelle sont enterrés Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, son fils. Et on va habituellement, le jour de l'Akba Omer, allumer des bougies là-bas. Et c'est à partir de ce jour-là qu'on commence à se raser, pour ceux qui peuvent rester sans se raser, ou en tout cas qu'on se coupe les cheveux, et qu'on fait officiellement la fin de ce qu'on appelle la période de deuil de Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà deux personnalités qui ont profondément marqué tout le monde, à tel point que, quelle que soit son origine juive, très souvent, quand il y a un problème, on dit « Rabbi Meir » ou « Rabbi Shimon ». Et nos grands-mères, qu'on a vues très souvent, qu'on a entendues très souvent, il est vrai que dès qu'il y avait un problème, elles appelaient comme ça, à gauche, à droite. Moi, je me rappelle, la première voiture que j'avais qui démarrait très mal, et des fois, ça arrêtait en pleine route, une fois, elle s'est arrêtée, ça a klaxonné derrière, il y avait ma grand-mère à côté, elle a senti tous les rabbins, y compris Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Je dis « C'est pas grave, t'inquiète pas, ça va partir. Rabbi Meir, Rabbi Meir. » Je dis « Mais va partir, ne t'en fais pas. » Et c'est vrai que ce sont deux illustres rabbins. Alors, la Hiloula, en hébreu, ce qu'on appelle Hiloula, qui vient du mot rappeler, ou qui vient du mot louanger un petit peu, la Hiloula est toujours la date anniversaire de la mort de la personne. Et les rabbins, qui sont des gens illustres, sont nés et sont morts le même jour, à quelques années d'écart. Évidemment, comme on sait, Rabbi Moshe Rabbeinu, qui est né et qui est mort le 7 Adar, le même jour. Même chose pour Rabbi Meir, ou pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, est né le jour de l'Akba Omer, le 33e jour du Omer, et il est mort le 33e jour du Omer, 120 ans plus tard. Là, après-demain, on va être exactement à 30 jours après le début de Pessah. Après-demain, donc vendredi. À partir en fait de demain soir, de jeudi soir, puisqu'on sait que vendredi commence jeudi soir. Exactement 30 jours après Pessah. 30 jours après Pessah, c'est 30 jours après la sortie d'Égypte. Et c'est exactement à cette date-là qu'est né Rabbi Meir Baal Hanes et que est décédé Rabbi Meir Baal Hanes. Demain soir, on va, si tu veux, dans toutes les synagogues de France et même du monde, allumer des bougies et faire des vœux pour que Rabbi Meir les exauce. Et on souhaite, si Dieu veut, qu'il les exauce. Comment ça marche? Est-ce que c'est un peu de la magie? Est-ce que c'est de la croyance? Est-ce que c'est de la superstition? Ou est-ce que c'est du vrai? Ce soir, ce que je voulais, moi, vous développer dans tout le cours, et c'est la raison pour laquelle on avait tous ces transparents, mais on le fera, si Dieu veut, la semaine prochaine, c'est la notion de bracha. Qu'est-ce que c'est qu'une bracha? Qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? Ce qu'on appelle en hébreu birkat Amazon, la bracha de la nourriture, birkat à Torah, la bracha de la Torah, ce qu'on appelle la bénédiction, bracha, à tel point qu'en français, bénédiction vient de baruch en hébreu. Donc ce qu'on appelle bénédiction en hébreu, qu'est-ce que c'est? Quand on dit « fais une bracha », de quoi s'agit-il? Quand on dit « on a la bracha », à tel point que même en arabe, on a traduit ça par la baraka, quand on a la baraka, ça marche, c'est qu'on a la bracha, qu'est-ce que c'est? Quand on va voir un rabbin, et qu'on demande à un rabbin de bénir quelque chose qu'on va faire, qu'est-ce que c'est? Quand on a un nouveau-né et qu'on va bénir le nouveau-né, ou lorsqu'on a deux personnes qui vont se marier et qu'on va leur faire Sheva Brachot, cette bénédiction, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y en a sept et qu'est-ce que c'est? Comment c'est fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi on le dit? Pourquoi c'est tourné comme ça? Et qu'est-ce que ça nous apporte? C'est ce que je voulais développer ce soir pour tenter de vous expliquer un petit peu les brachot qu'on demande à Rabbi Meir et à Rabbi Shimon. Savoir ce qu'est une bracha, si Dieu veut, on en parlera la semaine prochaine. et on va en même temps fusionner avec ce qu'on fera la semaine prochaine. Mais ce soir, rapidement, là, en 10 minutes, on va un petit peu tenter de comprendre l'importance du jour d'après-demain, l'importance du jour du Rabbi Meir. On n'aura pas le temps de faire Rabbi Shimon, on le fera si je veux une prochaine fois, sinon l'année prochaine, pour le prochain Lag BaOmer. L'importance du Rabbi Meir. Il est né exactement 30 jours après le premier jour de Pessah. Et 30 jours après le premier jour de Pessah, c'est ce qu'on appelle une fête qu'on appelle Pessah Sheni, le deuxième Pessah. Vous savez que énormément de chassidim, énormément de communautés ont l'habitude, comme vendredi, donc comme après-demain, donc à partir de demain soir, de faire un mini seder et de manger des matzot et du pain, les deux ensemble. On appelle ça Pessah Sheni. À tel point que même nous, dans nos synagogues jusqu'à aujourd'hui, le jour de Pessah Sheni, on fait des prières différentes. Vendredi matin, la prière ne sera pas la même que demain matin, ni que ce matin. Parce que c'est Pessah Sheni, il y a des choses qui changent, parce que c'est Pessah Sheni. Ce Pessah Sheni, d'où ça vient? Vous savez qu'à l'époque, les Juifs dans le désert, il fallait, à Pessah, offrir un sacrifice, qu'on appelle l'agneau pascal, l'agneau de Pessah, dont l'origine avait été, vous vous en souvenez, le fameux agneau qu'on a lié au bas du lit pendant 3 jours à la sortie d'Égypte et que Dieu avait demandé de sacrifier, puisque le dieu des Égyptiens c'était l'agneau, on a sacrifié l'agneau à Akadosh Baruch Hu pour montrer la suprématie du roi de l'univers, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Et donc, cet agneau pascal, on le faisait tous les ans, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem, tous les ans, chacun amenait un agneau. L'agneau, vous savez, c'est le petit du mouton. Les Arabes, par exemple, les musulmans, ont un petit peu repris ça lorsqu'ils font la fête du mouton. Ils prennent un mouton, ils l'égorgent. Alors, eux, ils mélangent le mouton de Abraham qui avait sacrifié pour eux Ishmaël à la place de Yitzhak, alors qu'en fait, c'était un bélier, avec le mouton de l'agneau pascal, mais enfin, quoi qu'il en soit, pour eux, c'est un peu la même sauce. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette habitude d'offrir un agneau pascal, Corban Pessah, est quelque chose qui s'est répandu même dans les civilisations parallèles aux nôtres. Jusqu'à la destruction du temple. Alors, c'était une obligation pour chaque juif. De la même façon qu'aujourd'hui, c'est une obligation pour chaque juif de faire le seder de Pessah, c'était une obligation pour chaque juif de prendre un agneau, de l'amener au Cohen, et de l'égorger, et de le tuer, et de montrer par cela qu'on était sorti d'Égypte et que tout ce qui était superstition et dieu étranger devait être annulé durant cette fête. Et puis, pour montrer qu'on voulait absolument se pencher vers le côté des mitzvot, le côté de la loi, de la Torah, et puis effacer de nous tout le côté qui est mauvais, on prenait ce qui représente le mal, donc l'orgueil, comme on l'avait expliqué, le pain, on annulait le pain, et on arrivait à la matzah, c'est la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est prendre le bon côté de la vie. Donc la matzah, la royauté, la table dressée, la fête, la libération, la liberté, et mettre de côté tout ce qui est le pain, qui représente le travail. D'ailleurs, vous savez que le pain représente toujours la guerre. On dit que l'echem, c'est la racine, c'est milchama. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a eu des problèmes de guerre, c'était pour les problèmes économiques. Même aujourd'hui, les racistes disent que les étrangers viennent manger le pain des Français. Ni les maisons, ni l'air, c'est le pain. Parce que le pain est toujours un critère de guerre. On dit quand on veut de l'argent, c'est mon pain. Donc, il fallait absolument enlever tout ce qui est mauvais, le pain, pour garder la matzah qui est bonne. Mais la Torah, c'est pas cela. La Torah ne consiste pas à avoir une fuite du mal pour aller vers le bien. La Torah, ça consiste à savoir gérer le mal pour en faire du bien. C'est la raison pour laquelle, un mois plus tard, on va avoir Pessah Sheni, où on va mélanger la matzah et le pain. C'est-à-dire qu'on va être capable d'avoir sur une même table la cohabitation du bien et du mal et les orienter vers le bien. Et ça, c'est le top du top. Et ce moment-là, c'est le moment du Rabbi Meir. Sous-entendu que si on veut la bracha, la première chose, c'est de savoir qu'une bracha n'est pas quelque chose d'isolé sur un point. Lorsqu'on dit par exemple à quelqu'un « Fais une bracha pour que je puisse avoir signé mon contrat », la bracha n'est pas isolée sur le contrat. C'est-à-dire le contrat sera béni et pas la maison. Une bracha, c'est quelque chose de général. C'est ou c'est pas. Tu es béni ou quelqu'un ne l'est pas. Si on est béni, c'est en tout. Si on est béni que sur une chose et pas sur une autre, c'est pas une bracha. Une bracha, donc, c'est pas partiel. Donc la première chose à savoir, c'est que de la même façon que la Torah englobe le bien et le mal pour l'orienter vers le bien, la même façon dans la vie, quand on veut la bracha dans la vie, on a la bracha surtout. Et la bracha surtout, ça veut dire qu'on est aussi capable, dans les choses négatives, qui sont vis-à-vis de nous des choses agressives, on est capable de les orienter vers un bon côté. Vous savez que très souvent en médecine, on dit qu'on soigne le mal par le mal, et c'est vrai que pour soigner quelqu'un, comme je l'ai vu ce soir par exemple, il faut lui faire mal. Il faut anesthésier, il faut voir ce que c'est le sang qui gicle partout, etc. C'est une folie, c'est très terrible, mais ça le guérit. Et ce monsieur, dans 6 mois, il sera bien, normal, et il sera guéri. Donc parfois on a besoin du mal pour guérir le mal. C'est vrai, c'est très dur, je vous assure, surtout quand on le voit, mais quelque part, on a besoin de ça pour guérir. Donc, dans la vie, Il ne faut pas considérer les choses séparément. Et il ne faut pas croire que quand on veut une bracha, il faut se focaliser sur la chose dont on a besoin et sur la bracha qu'on demande. Il faut avoir à l'esprit que quand on demande à Dieu une bracha, on demande surtout. Demain soir, quand on va allumer les bougies, si par exemple on veut se marier, ou avoir des enfants, ou réussir dans la vie, ou avoir la bonne santé, etc., il ne faut pas dire « je veux juste ça » en allumant la bougie. On veut la bracha. La bracha, ça veut dire « Dieu est avec nous ». Et dans ce qu'on fait, ça marche, quel que soit ce qu'on fera. Évidemment, ce dont on a envie, ce dont on a besoin maintenant, mais même ce dont on aura besoin demain, et pour lequel, aujourd'hui, on n'a pas encore conscience. Le moment privilégié pour ces brachas, c'est Pessah Sheni. Et Pessah Sheni, c'est après-demain. Et Pessah Sheni, dans la Torah, c'était marqué à quel niveau? Au niveau de ceux qui n'ont pas pu offrir leur agneau pascal, leur sacrifice de Pessah. Parce qu'à l'époque, pour offrir l'agneau pascal, il fallait être pur. Pur, ça veut dire qu'on n'a pas été en contact avec des choses impures. Mais il y avait des gens, par exemple, qui faisaient le ménage et qui touchaient des fois des lézards, passant le balai. Il y avait des gens, hélas, qui s'occupaient d'enterrer les gens. Il y avait des gens qui s'occupaient de manipuler des choses impures. Il fallait bien qu'il y en ait qui fassent ça. Or, avant Pessah, il fallait bien le faire pour ceux qui y avaient besoin. Donc ces gens-là qui étaient impurs pendant la fête de Pessah, parce qu'ils avaient été en contact avec une chose impure et qu'il faut au moins 7 jours pour se purifier, donc celui qui était en contact avec une chose impure, qui a fait ménage de Pessah, qui a touché un lézard 3 jours avant la fête de Pessah, ne pourra pas offrir son corban Pessah, son agneau pascal, parce qu'il sera impur lorsque Pessah va venir. Et l'agneau pascal, c'est le soir de Pessah et pas après. Comme le seder de Pessah, c'était le soir de Pessah et pas après. Nous, on en a deux, mais passé les 2 soirs, on ne peut plus le faire. Celui qui a loupé ça parce qu'il était en voyage, il ne peut plus le faire. Alors les Juifs sont venus voir Moshe. Et ils ont dit, mais quelqu'un qui a été impur, pour une raison qui est indépendante de sa volonté, c'est son job, c'est son travail, il s'occupe de ça. Il ne peut pas offrir le Corban Pessah, alors que c'est un devoir pour tout le monde d'offrir cet agneau pascal. Moshe ne savait pas quoi répondre, il est parti vers Dieu, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, pour ces gens-là, spécialement, on va faire un deuxième Pessah un mois plus tard, Pessah Sheni, pour ceux qui sont loin de chez eux en voyage, pour ceux qui sont impurs, pour ceux qui ont un cas de force majeure qui les empêcherait de faire le premier. Et donc, c'est comme ça que Pessah Sheni est rentré dans les mœurs. Mais quoi qu'il en soit, ce Pessah Sheni est resté une pseudo-fête, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la prière de Pessah Sheni est différente, et ce Pessah Sheni, aujourd'hui, est marqué principalement par le sceau de Rabbi Meir Baal HaNes. C'est la fête, la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Donc, quand on va demander des brachot, il faut demander des brachot sur tout. Première chose. Rabbi Meir Baal HaNes. Quel grand homme. Mais qui c'était au fond, Rabbi Meir Baal HaNes? Rabbi Meir Baal HaNes, il a vécu dans les années 80-90. 80-90, c'est-à-dire 0 plus 80-90. Donc avant Charlemagne, qui était en l'an 800. Il a vécu dans le premier siècle de l'ère qu'on vit aujourd'hui. Rabbi Meir Baal HaNes. On ne connaît pas bien ses parents. On ne sait pas vraiment d'où vient Rabbi Meir. Quand on cherche dans le Talmud, on ne voit ni le nom de son père ni le nom de sa mère. D'ailleurs, très souvent, on appelle les rabbins avec le nom de leur père, comme on l'avait vu une fois quand on avait fait le cours de Pessah. Exemple, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar le fils d'Azaria, Rabbi Shimon bar Yochai. On sait que le père de Rabbi Shimon bar Yochai, c'était Yochai, puisqu'il s'appelle Shimon le fils de Yochai. Mais Rabbi Meir, on ne connaît pas. Son père, on cherche, on ne connaît pas. Alors dans la Gemara, quand on cherche bien, on se rend compte que, bien avant Rabbi Meir, à l'époque de destruction du temple, il y avait un gouverneur qui s'appelait Néron. Vous connaissez bien Néron, ce fameux gouverneur romain qui est devenu empereur. Lorsque Néron a reçu l'ordre d'anéantir Jérusalem et détruire le temple, enfin a décidé de le faire, il a voulu savoir si vraiment son entreprise allait marcher. Parce que vous savez, ces grands des civilisations ne sont pas des imbéciles. Ils savent que s'il y a un temple et il y a une force là-dessus, ils ont très peur des forces. Ils sont très superstitieux. Néron a voulu savoir s'il pourrait détruire le temple. Et la Gemara raconte que Néron a envoyé son gouverneur devant Jérusalem. Il a dit « Prends ton arc et tire une flèche vers l'est. » Il a tiré la flèche vers l'est. Il y a un coup de vent qui est venu, qui a dévié la flèche, qui est tombé en plein sur la ville de Jérusalem. Il a dit, maintenant tu prends ton arc et tu tires une flèche vers l'ouest, l'autre côté. Il a pris l'arc, il a tiré la flèche, un vent est venu de l'autre côté, il a dévié la flèche et est retombé encore sur Jérusalem. Il a su, par là, qu'il pourrait détruire cette ville et que le bon Dieu, en quelque sorte, lui permettait de détruire son sanctuaire. Alors Néron s'est dit, j'aimerais bien savoir pourquoi le bon Dieu des Juifs me permet de détruire sa maison. Et on sait, ça c'est une phrase de la Gemara qui a été très souvent reprise, que la vérité ne sort que de la bouche des enfants. Vous savez, entre autres, qu'un passage de la Gemara dit que lorsqu'on a des petits-enfants à côté de soi, même pour des parents, et qu'on ne sait pas si on doit faire une chose ou pas, ben, c'est pas toujours inutile d'écouter les enfants, Des fois, ils ont des paroles de prophétie qui sortent quand ils disent « Non, non, on va pas. » Des fois, il vaut mieux de ne pas les écouter. Vous savez que, par exemple, dans le Sefer Torah, il y a parfois des lettres qui sont mal écrites. Si je prends, par exemple, une lettre ici, comme par exemple le bet, si celui qui a écrit le Sefer Torah a mal écrit le bet comme ça, il a la petite épine, là, il l'a mal faite, on peut croire que c'est un kaf comme ça. Voyons, entre le kaf et le bet, il y a juste cette petite épine. Si je fais ça, ça devient un kaf. Parfois, dans le Sefer Torah, la petite épine est mal marquée. Elle est juste un tout petit peu marquée. C'est bien quand on lit, on voit un kaf. Quand on s'approche bien, on voit un bet. Et les rabbins disent, est-ce que c'est un Torah qui est marqué comme ça et cachère ou pas? Et c'est vrai qu'on a le problème parce que quand tu t'approches bien, tu vois que c'est un bête. Mais à première lecture, ça paraît un cas. Or, c'est un Torah des cachères que s'il est vraiment explicite. Comment savoir s'il est cachère ou pas? On n'a pas le droit de fermer un Sefer Torah s'il est cachère, c'est un outrage. On n'a pas le droit de lire dans un Sefer Torah qui n'est pas cachère, c'est une faute. Alors que faire? On n'a pas un enfant dans la synagogue de 5 ans, on le prend, il fait qu'est-ce que tu lis? Comme ça, on lui montre. Alors on lui montre une lettre là, il fait Shin, on lui montre ça, il fait Gimel. On lui montre ça, il fait Aleph, et bien ça, 4. S'il répond 4, le Sefer Torah, on le ferme, il n'est pas caché. S'il répond bête, on continue à lire dans le Sefer Torah. Ce qui n'empêchera pas que dimanche, après Shabbat, on va prendre une petite épine et puis on va commencer à ranger un petit peu ça pour en faire un bête meilleur. Et s'il répond bête, c'est qu'il est caché. Pour vous dire que même dans la Torah, on part du principe clair, et ça c'est une halakha, qu'on applique très souvent le Shabbat à la synagogue quand on a un doute sur un Sefer Torah, et bien dans la Torah, on dit que la vérité ne sort que de la bouche des enfants. Alors Néron a vu un petit enfant juif comme ça qui sortait de son école, et il a dit « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ?» Et l'enfant lui a dit « J'ai appris que ceux qui te font du mal seront un jour eux-mêmes punis. » Il a cité une Mishnah de Pirkei Avot qu'on a vu la semaine dernière. On dit que quelqu'un a vu un crâne qui était sur, vous vous rappelez, qui était sur une rivière, et quand il a vu ça, il a dit « Parce que tu as tué, tu as été tué, et celui qui t'a tué sera tué à son tour. » Sous-entendu que celui qui fait sera puni. Et puis l'enfant lui a raconté cette Mishnah, et lui a dit que celui qui a anéantiré justement la maison de Dieu sera lui-même anéanti par le peuple juif parce qu'il lui a fait du mal. Alors Néron, quand il a entendu ça, il a dit « Comment ? Dieu me permet de détruire sa maison et après il va me taper dessus parce que je l'ai fait ?» Il ne peut pas à la fois me dire de faire et me dire de ne pas faire. Lorsque Néron a entendu cela, il a été très bien impressionné, ça lui a fait un gros électrochoc dans sa tête. Et on dit, dans la Gemara, qu'à la fin de sa vie, il s'est converti au judaïsme. Et on dit que son arrière-petit-fils s'appelait Rabbi Meir Baal Hanes. Donc, quelque part, il y a un scénario dans la Gemara qui nous expliquerait que Rabbi Meir descend de Néron. On aurait tout cru sauf ça. Hein. Quoi qu'il en soit, un jour, on vient un petit bébé qui s'appelle Rabbi Meir, qui aujourd'hui est enterré à Tibériade, devant la Kinneret. Un petit bébé qui s'appelle Rabbi Meir. En fait, ça ne s'appelait pas Meir du tout. Il s'appelait, je crois, Meirson, ou Meirson, un truc comme ça en hébreu. Et lorsqu'il a grandi, comme on a vu, c'était une lumière, et que dès qu'on demandait un commentaire de la Torah, il brillait devant tout le monde, on l'a appelé Meir, or, celui qui fait de la lumière. Donc Meir, ce n'est pas le nom qu'on donnait ses parents, c'est un nom qu'on lui a donné après, parce que c'était une lumière, Rabbi Meir. Et qui était le maître de Rabbi Meir? C'était Rabbi Akiva. Donc vous voyez qu'on est quand même dans une grosse pointure. Rabbi Meir, élève de Rabbi Akiva. Au début, parce que Rabbi Meir était chez Rabbi Akiva, il avait du mal à suivre. Donc vous voyez, on n'est pas tous des génies depuis le départ. Hein. À tel point qu'il a été renvoyé de l'école de Rabbi Akiva parce qu'il ne pouvait pas suivre. Il a dit, mettez-le à part. On l'a envoyé chez Rabbi Eliezer. Et là-bas, chez Rabbi Eliezer, il a appris à un niveau moins grand la Torah. Et lorsqu'il est devenu suffisamment balèze, on l'a réintégré dans l'école de Rabbi Akiva. Et là, c'est devenu véritablement l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Meir. Lorsqu'il a grandi plus tard, eh bien, il s'est marié. Il s'est marié avec une femme qui s'appelle Berouria. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait il n'y a pas très longtemps un cours sur les manipulations génétiques et la Torah. Et dans le cadre de ce cours, on avait un petit peu expliqué les souffrances que certains peuvent endurer. On a parlé entre autres d'un rabbin qui s'appelait Rabbi Hanania ben Teradion. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On avait discuté de ça ici dans cette Gemara. Alors, je ne vais pas le relire parce qu'il est tard, mais Rabbi Hanania ben Teradion, je ne sais pas si vous vous souvenez, était un rabbin qui fait partie des 10 martyrs juifs. À l'époque des Romains, il était interdit d'enseigner la Torah. Lui, il le faisait quand même. Parce que les Romains sont passés devant sa maison, ils ont vu qu'il étudiait la Torah et qu'il enseignait la Torah. Ils l'ont pris, ils l'ont condamné à mort, ils l'ont mis sur un bûcher. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils ont commencé à allumer le bûcher. Et Rabbi Hanania ben Teradion était sur ce bûcher. Et pour lui faire mal, très mal, ils ont pris des éponges humides. Ils lui ont mis les éponges humides sur la poitrine comme ça il brûle mais il ne meurt pas. Comme ça il a encore plus mal, une horreur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là qu'on avait vue dans la Gemara. Et puis, à un moment, les élèves lui ont dit, mais Rabbi, c'est pas possible, tu ne peux pas rester comme ça. Il dit au moins au bourreau de t'enlever les éponges, au moins que tu meurs. À la fin, ils ont enlevé les éponges et il est mort. Rabbi Chanina ben Teradion. Rabbi Chanina ben Teradion, un des 10 martyrs juifs, qui est mort dans des circonstances tellement terribles, dans des douleurs et des souffrances tellement affreuses, Rabbi Chanina ben Teradion avait 2 filles. L'une est devenue prostituée. Vous voyez un peu? Et on avait expliqué, quand on avait fait le cours, pourquoi elle avait dévié comme ça. C'était une jeune fille qui voulait un peu trop se montrer, et on dit, à force de t'approcher trop du lion, tu finis par te faire manger. D'ailleurs, la Gemara, on avait vu ça, avait raconté l'histoire de cet homme qui marchait pour aller vers Jérusalem. Marchant pour aller vers Jérusalem, il avait soif, il s'est assis sur une pierre comme ça, il a commencé à voir le champ. Et en voyant un champ qui était devant lui, il a vu un oiseau qui est venu, et qui s'est posé sur le champ, il a vu à côté de lui un oiseau mort. Donc un oiseau vivant qui a vu un oiseau mort. Il a vu l'oiseau qui s'envolait, il est parti vers un arbre, il a pris une branche de l'arbre, il est venu avec la branche, et il a mis la branche sur l'oiseau mort, et l'oiseau mort s'est réveillé, il est devenu un oiseau vivant. Quand il a vu ça, il a dit c'est fantastique, il y a une branche d'arbre qui est merveilleuse là. Il est parti vers cet arbre bizarre, il a pris une branche. Marchant sur le chemin, il a vu un chien mort. Il a dit je vais essayer. Il a mis la branche sur le chien s'est réveillé et était en pleine forme. Il a dit super cette branche. Continuant son chemin, il a vu un âne mort. Voyant l'âne, il s'est dit, tiens, maintenant c'est la grosse artillerie. Il a vu l'âne mort, il a dit, tiens, c'est super, j'ai encore essayé. Pouf, il a mis sur l'âne, l'âne s'est réveillé, il est reparti. Il a dit, c'est génial, je vais faire un pognon terrible avec ça. Il dit, attention, les armes, faut faire attention, parce que des fois ça se retourne. Continuant son chemin, lui en train de voir sa branche comme ça, et se dire, ah, quelle merveille, ça. Il a vu un lion mort. S'approchant de lion, il a mis la branche sur le lion s'est réveillé, il l'a vu, il l'a bouffé. Donc, vous voyez, tout ça pourquoi? C'est pour dire, quand on a des choses dans les mains, faire attention de ne pas aller trop loin. Et là, ça avait été le cas. Et donc, Rabbi Tarachan Ben Taradion avait donc cette fille-là qui, à force de vouloir trop se montrer et séduire, a fini elle-même par tomber. Et elle s'est retrouvée prostituée. Ça, c'était sa première fille. Il avait une deuxième fille qui s'appelait Berouria et qui est devenue la femme de Rabbi Meir Balanes. Donc, la belle-sœur de Rabbi Meir faisait le trottoir, entre guillemets. La femme de Rabbi Meir, c'était Berouria. L'arrière-grand-père de Rabbi Meir, c'était Néron. Et le beau-père de Rabbi Meir, c'était Rabbi Chanina ben Teradion qui est mort sur le bûcher. Vous voyez un peu où on se place. Maintenant, au moins, quand on va Rabbi Meir, on sait déjà qui c'est. Berouria, c'est une femme fantastique. Vraiment, une femme fantastique. Rabbi Meir, durant sa vie, a eu beaucoup de difficultés. Entre autres, Rabbi Meir a eu 3 enfants. Il a eu 2 garçons et une fille. Avec Berouria. Ensuite, je dis entre parenthèses, il a divorcé 3 fois. Mais il était avec Berouria. C'est-à-dire Berouria est mort, il s'est remarié, puis après ça, il s'est divorcé 3 fois après. Et donc Rabbi Meir était avec Berouria, il a eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Un Shabbat, Berouria était chez elle, Rabbi Meir était à la synagogue, il donnait des cours toute l'après-midi. Berouria a vu ses 2 garçons, qui étaient des gros mecs, qui sont rentrés, ils ont commencé à avoir mal à la tête, ils sont tombés, ils sont morts tous les 2. Comme ça. Une horreur. Voyant cela, c'est un Shabbat. Elle les a mis dans sa chambre, elle les a mis sur un lit, elle les a recouverts avec un drap. Lorsque Rabbi Meir est rentré pour déjeuner, il a dit, où sont les enfants, où sont les garçons? Je ne les ai pas vus à la synagogue. Il a dit, bah, je sais pas, ils sont sortis. Il dit, mais je ne les ai pas vus à la synagogue. Il a dit, bon tiens, fais qu'ils douchent. Ils ont déjeuné. Elle dit, mais où ils sont? Ils ne déjeunent pas avec nous? Je sais pas, ils sont dehors. Bon. Après-midi, il est parti donner ses cours. Le soir, c'est terrible comme histoire. Le soir, il est rentré chez lui à l'Abdallah. Il a dit à sa femme, mais c'est pas possible, je ne les ai pas vus de la journée, mais où ils sont? Elle a dit, viens, on fait Abdallah. Elle a dit, mais où sont les garçons? Je sais pas, ils sont certainement dehors. Elle a dit, viens, on fait Abdallah. Ils ont fait Abdallah. Juste après la Abdallah, Berouria a dit à son mari, Rabbi Meir, mais tu sais, j'ai un truc à te demander. Il y a quelqu'un qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps. Il m'a confié des bijoux à lui. Et il veut les récupérer. Est-ce que je dois lui rendre ou pas? C'est quoi la loi, la halakha, dans ce cas précis? Alors lui, il lui a dit, à partir du moment où on te confie quelque chose, tu le rends, c'est normal. C'est évident, ça ne t'appartient pas, ça appartient à celui qui te l'a confié. Il a dit, je voulais ton avis avant de faire la chose, parce que si tu m'avais dit non, je n'aurais pas rendu les bijoux. Je dis, mais non, je ne peux pas être voleur. Si tu ne rends pas les bijoux, c'est que tu voles. Tu rends les bijoux de quelqu'un qui t'a confié des bijoux. Elle l'a mis dans la chambre, il a vu ses 2 enfants. Quand il les a vus, il a fondu en larmes. Elle lui a dit, écoute, il a confié quelque chose et il a repris. Elle lui a fait un électrochoc. Et c'est comme ça qu'il a réussi à s'en remettre un petit peu. Sinon, il aurait eu une crise cardiaque. Et donc, de ses trois enfants, ses deux fils sont morts le même jour. De ses trois enfants, il ne restait que sa fille. Qui elle-même a donné des enfants dont on ne connaît pas aujourd'hui la lignée, on ne sait pas. Donc on n'a pas de descendance de Rabbi Meir. En tout cas, on n'a pas de descendance de garçon. Sa femme, Berouria, était une grande femme. Vous savez, pour avoir le courage, avec ses propres enfants, de tenir comme ça la tête, c'est que vraiment, c'était une grande femme. Rabbi Meir a beaucoup souffert dans sa vie. Il n'est pas devenu Baal Hanes comme ça. Il a beaucoup souffert. Rabbi Meir, durant toute la vie qu'il a souffert d'abord avec son maître, Rabbi Akiva. Parce que lorsqu'il était à l'école chez Rabbi Akiva, il n'était pas du niveau. Il a fallu qu'il change d'école pour après revenir. Mais après Rabbi Akiva, il a eu un deuxième maître. Un deuxième maître très fort. Ce deuxième maître, on l'a appelé Acher, l'autre. Un homme très grand dans la Torah. Une lumière dans la Torah, ce deuxième maître. Qui s'appelait en fait Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, c'était quelqu'un qui a approfondi la Torah d'une façon fantastique. C'était le maître de Rabbi Meir Baal Hanes après Rabbi Akiva. Et vous savez, pour être maître après Rabbi Akiva, il faut être à peu près du même niveau que Rabbi Akiva. Pour être le maître de Rabbi Meir. Acher. Lorsque donc Acher, ce monsieur, qui s'appelait donc Elisha ben Abouya, lorsque ce monsieur était comme ça un jour dans la rue, il a vu une chose terrible. Et il a complètement, mais alors complètement abandonné le chemin de la Torah. Vous vous rendez compte, un maître de la poigne de Rabbi Akiva, qui du jour au lendemain a tout laissé tomber. Et pourquoi? Parce qu'il a vu, assis comme ça, un enfant et son père devant un arbre. Et le père demande à son enfant, dis-moi mon fils, tu peux grimper sur l'arbre, me chercher un œuf là dans le nid? Je voudrais boire, je vais prendre un œuf. Il est marqué dans la Torah que lorsque un enfant respecte son père et sa mère, il est marqué respecte ton père et ta mère, car tes jours se prolongeront sous la terre que Dieu t'a donnée. C'est une bracha. On dit respecte tes parents, tu auras la vie longue. Il est marqué aussi dans la Torah que lorsqu'on prend un œuf d'un nid, il faut renvoyer la mère avant de prendre l'œuf, pour pas que la mère voie qu'on lui prend son petit. Et il est marqué afin que tes jours se prolongent sur la terre. Ce sont les deux seuls mitzvot de la Torah où il est marqué après, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Et lui était assis comme ça en train d'étudier les Shabbat Abouya. Et lui qui était assis en train d'étudier, a vu ce monsieur qui a dit à son fils, monte s'il te plaît me chercher un œuf dans le nid. Le fils est monté sur l'arbre pour chercher un œuf dans le nid. Voyant qu'il y avait la mère qui était là, colombe, il a fait envoler la mère pour qu'elle s'en aille. Lorsque la mère s'est envolée, il a pris l'œuf. Donc, Elisha ben Abouya voyant ça, dit quel mérite cet enfant. Non seulement il a respecté son père, mais en plus, il a fait la mitzvah de renvoyer la mère avant de prendre l'œuf. Lorsque cet enfant est redescendu, il a trébuché sur une branche et est tombé par terre, il est mort. Il a dit quoi? C'est ça, ce qui est marqué dans la Torah. On te dit respecte ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. On te dit par ailleurs que lorsque tu veux prendre un œuf, tu dois renvoyer la mère avant de prendre l'œuf. Et voilà que lui, il fait les deux en même temps. Les deux sur lesquels il est marqué que tes jours se prolongeront sur la terre que Dieu t'a donnée. Et voilà que lorsqu'il descend, il n'a même pas le temps de vivre. C'est un enfant qui n'a même pas eu le temps de pouvoir même dans la vie découvrir des choses ou fauter. Et voilà qu'il meurt. C'est ça la Torah? Lorsqu'il a vu ça, du jour au lendemain, il a décidé de tout abandonner. Alors on l'a appelé Acher, l'autre. Rabbi Meir était son élève. Rabbi Meir a su que son maître avait tout abandonné. Rabbi Meir, lui, a eu ses parents qui venaient on ne sait pas d'où, a perdu ses deux fils, a eu beaucoup de galères dans la vie, et lui par contre est resté dans le chemin de la Torah. Alors on peut dire que Acher n'a pas tout à fait compris. Et il est vrai que Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer expliquaient que lorsque la Torah dit « afin que tes jours se prolongent sur la terre que Dieu t'a donnée », on ne parle pas de la terre ici-bas, mais on parle du monde futur, ça veut dire que tu as accès au monde futur parce que tu as fait ces deux mitzvot. Cela dit, dans la Torah, c'est quand même marqué « afin que tes jours se prolongent ». Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors Acher a décidé de tout abandonner. Rabbi Meir, quand même, pendant ce temps, voulait absolument continuer à attendre la Torah de ce Acher qui était son maître. Un jour, c'était Shabbat, Rabbi Meir était en train d'étudier dans sa yeshiva. Et voilà qu'on lui annonce que Acher est dans le quartier. Voyant cela, Rabbi Meir sort et il voit Akavia, donc son maître, qu'on appelait Acher, il le voit sur son cheval, Shabbat, exprès, en train de venir à cheval. Imaginez un grand rabbin qui laisse tout tomber et qui vient exprès dans la synagogue en bagnole, Shabbat avec une clope dans le bec, pour vous dire un petit bonjour comme ça. Lui qui était archi, hyper, extra, et en plus qui est une bombe dans la Torah. Imaginez la situation, incroyable. Que fait Rabbi Meir? Il le voit comme ça sur son cheval. Il lui dit « Maître, comment allez-vous ?» Les élèves, ils le voient autour. Il dit « Tu appelles maître ?» Et lui qui dit « Ça va, ça va. » Et alors il continue avec son cheval, il avance. Que fait Rabbi Meir? Il marche derrière le cheval et il le suit. Il dit « Pourquoi tu me suis ?» Rabbi Meir balanès. Il dit « Parce que je veux apprendre la Torah de toi. » Il dit, qu'est-ce que tu vas apprendre de moi? Moi, j'ai plus de Torah à te donner. Moi, j'ai tout laissé tomber. Il dit, mais je veux quand même apprendre. Alors, Acher, qui était une très grande intelligence, qui était sur son cheval, il dit, bon, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Vas-y, dis-moi au moins ce que tu as enseigné à tes élèves, que je sache un peu ce que toi, mon ancien élève, tu enseignes à tes élèves. Alors, Rabbi Meir lui a dit, je leur ai enseigné que dans la Megillah de Job et Yov, où on voit Job qui a eu tant de douleurs, et tant de misère, on voit que Job avait des richesses, avait des enfants, avait la gloire, la fortune, la santé, tout, et que d'un coup il a tout perdu, et la gloire, et la fortune, et la santé, mais en plus les enfants, tout ce qu'il avait. Et bien on voit qu'à la fin il a récupéré le double de ce qu'il avait au départ. Ce qui signifie que lorsque Dieu, Barmina, enlève quelque chose, et bien après, il rend le double. Alors lui qui est sur son cheval, il fait, c'est ça ce que tu lui as appris? C'est ça ce que tu leur as enseigné? Il dit oui. Alors Acher qui lui dit, quand je pense à tous ces grands maîtres de l'époque, Rabbi Akiva il y a quelques années, les autres, dommage qu'ils soient morts, parce que quand je te vois, franchement, la relève, elle n'est pas assurée. Alors, lui qui est en bas, il dit, pourquoi? Tout ça, avec l'autre sur son cheval. Et lui qui suit, et d'ailleurs, tous les élèves qui sont d'ailleurs en train de voyez un peu le cirque. On dit, pourquoi? Il dit, parce que tu peux jamais dire que lorsque Dieu enlève, il va rendre le double. Et lorsque Dieu enlève la vie, il va rendre deux vies. Est-ce que tu vois dans la vie qu'à chaque fois que Dieu enlève quelque chose, il rend le double? Parce que tu vois que Job, il a eu après le double de ce qu'il avait au départ, tu vas dire que c'est une généralité, et qu'à chaque fois que Dieu enlève quelque chose, il rend le double? C'est faux. Tu le vois bien que c'est faux. Pourquoi tu apprends la Torah comme ça? Moi, je te dis, et je sais que c'est faux. Tu sais ce qu'elle veut dire la Torah par là? Dit Acher sur son cheval, le Shabbat, en train de galoper. La Torah veut dire par là que si quelqu'un qui a perdu quelque chose a la récompense de récupérer la chose après et même de récupérer le double, c'est ça que Dieu lui a enlevé la première chose, c'est parce que les mitzvot qu'il avait faites au départ ont eu tellement de mérite que malgré le fait qu'il n'a pas pu protéger la première chose et qu'elle est partie, il a le mérite d'avoir le double après. Donc si Job a eu le mérite après de pouvoir avoir le double de ce qu'il avait avant, c'est parce que c'était un homme tellement bien avant qui a fait tellement de mitzvot que Dieu ne pouvait pas lui enlever définitivement. Alors il lui a rendu et le double. Donc lorsque quelqu'un récupère deux fois, c'est pas parce que Dieu lui a enlevé, c'est parce qu'il avait suffisamment de mérites accumulés pour que Dieu lui donne la suite. Il ne dit pas des choses au travers. Et ceux qui n'ont pas ces mérites ne récupèrent pas. Et je suis bien placé pour le savoir, je l'ai vu. Alors il continue la route. Et puis Acher se retourne et il dit « Et qu'est-ce que tu leur as appris encore à tes élèves ?» Alors lui, Rabbi Meir, il nous a dit parler. Il dit, bon, ceci je vais dire. Eh bien, j'aurais appris que c'est marqué dans la Torah que lorsque quelqu'un avait quelque chose et que cette chose-là, il l'avait et puis il l'a perdue, s'il a eu le mérite de la retrouver, eh bien, il a beaucoup plus de récompense et de joie que la première fois qu'il l'avait. Exemple, quelqu'un a acheté, par exemple, un beau sac, un beau porte-monnaie, une belle sacoche, pas un truc très beau. Donc, il était content quand il l'a acheté. Et puis, il l'a perdu. Il peut le trouver, il a passé 3 ans à le chercher. Au bout de 3 ans, il l'a retrouvé. Le kiff de le retrouver est plus grand que le kiff qu'il avait quand il achetait la chose. Parce qu'il l'a retrouvé. Et c'est marqué dans la Torah que lorsqu'on a perdu quelque chose et qu'on l'a retrouvé, on a deux fois plus de mérite, on a deux fois plus de plaisir. Et on le voit parce que Job et Yov, ce qu'il avait avant perdu, il l'a retrouvé après deux fois. Il recommence avec son même verset. Alors, cette fois-ci, il a dit cette fois-ci, tu vois, j'ai interprété différemment. Acher se retourne vers lui toujours de son cheval Il dit, décidément, tu me confirmes dans ce que je pensais, la relève est vraiment pas assurée. Il dit, pourquoi tu dis ça? Je vais t'expliquer pourquoi. La Torah, c'est pas comme ça qu'il faut la voir. C'est pas que tu perds quelque chose et puis après quand tu le récupères, t'es encore plus content. La Torah veut pas que tu perdes du tout. Elle veut pas que t'es pas obligé de perdre quelque chose pour avoir le plaisir de la chose. C'est rare ça. Au moins quand tu l'as, apprends à avoir le plaisir. Ce que la Torah veut te dire, c'est que si en route, quand tu avais une chose, tu l'as perdue et que tu l'as retrouvée, c'est parce qu'au départ, quand tu avais commencé à faire ça, tu es parti sur de bonnes intentions. Lorsqu'on part sur de bonnes intentions, même si en route il y a des obstacles et qu'on perd la chose, on finit par la retrouver. Parce que l'intention du départ va induire ce qui se passera à la fin. Alors que, quand on a une mauvaise intention au départ, même si on a l'impression de saisir la chose, elle disparaît. Et c'est pour ça qu'il est marqué, Sof Maase et Mahashava Techila, la fin d'un acte est le reflet de la pensée du départ. C'est pas que quelqu'un qui a perdu et qui retrouve est deux fois plus content, etc. Ça, c'est subjectif, c'est rien, c'est ce que tu me dis, c'est de la théorie. Moi, je te dis que lorsqu'on a une bonne intention pour faire quelque chose, ça mène. Donc, si tu veux, par exemple, avoir une bonne bracha, et l'intention de mériter ta bracha. Je ne reste pas comme ça à attendre que ça vienne. Je m'assois, j'attends. Parce que là, ça ne donnera rien. Et l'intention que ça marche. Et les rachamim disent, et c'est là-dessus qu'on va comprendre le message du Rabbi Meir Baal HaNes, que lorsqu'on demande une bracha à qui que ce soit, et surtout à Kadosh Baruch Hu, il faut la demander en ayant l'intention que ça marche. Pas en disant, je demande et puis on verra. Non, non, ça va marcher, ça va marcher. Je sens que ça va marcher. Je te demande parce que je sais que ça va marcher. J'ai confiance en toi, je sais que tu feras que ça marche. Ça, c'est énorme. Donc ça, c'est la deuxième chose. Continuons en route. J'étais en train de parler comme ça. Et puis, Acher, qui était encore sur son cheval, lui dit, et qu'est-ce que tu as appris encore? Qu'est-ce que tu leur as enseigné à tes élèves? Rabbi Meir, qui était encore en train de suivre comme ça, il a dit, cette fois-ci, je ne vais même pas oser parler. Il dit, je vais changer de verset, parce que celui-là, à chaque fois, il me casse dessus. Il dit, il y a un verset qui dit que les paroles de la Torah sont plus précieuses que l'or et que le verre. Quelle drôle de comparaison. Dire que les paroles sont plus précieuses que l'or, c'est vrai que l'or, c'est cher, donc plus précieux que l'or, on s'imagine que c'est très précieux. Enfin, à la limite, on trouve même plus cher que l'or, les diamants, par exemple. Mais enfin, bon, prenons l'or, d'accord. Mais que le verre, pourquoi les paroles de la Torah sont-elles plus précieuses que le verre? Rabbi Meir lui a dit, c'est parce que lorsque tu as quelque chose en or, c'est très difficile à obtenir. Il faut beaucoup d'argent pour acheter un bijou en or. La Torah, c'est très dur de l'avoir. Il faut beaucoup transpirer, il faut y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent personnel, beaucoup d'argent interne pour avoir la Torah. La Torah, c'est comme l'or, et c'est plus précieux que l'or. Et la Torah, c'est aussi comme le verre. Parce que tu vois un bijou en or, tu peux le prendre, tu le plies et tu le casses. Ça se casse de l'or. Un verre, c'est beau, tu as passé 10 heures à sculpter un verre. Tu le lâches, il tombe et il se casse. Eh bien, la Torah, c'est la même chose. On peut des fois avoir étudié pendant des années, et puis un jour, ça tombe et ça se casse. Acher, qui était sur son cheval, lui dit, alors là, tu m'as eu. Et c'est vrai. Je peux te le dire. Moi, j'ai passé ma vie à étudier la Torah. J'ai acquis des paroles d'or. J'ai acquis des vers précieux que j'ai sculptés pendant des années. Le jour où c'est tombé, ça s'est cassé. Tu vois dans ton verset, tu fais que me confirmer, lui dit son maître. Alors Rabbi Meir qui est en bas lui dit, mais tu sais pourquoi le roi Salomon, quand il a écrit ça, il a comparé ça à l'or et au verre? Parce que si tu as pris un bijou en or et que tu l'as cassé, tu sais ce que tu fais? Tu le chauffes, tu le fonds et tu refais un nouveau. Ça te colle. Et si tu avais un verre très précieux et que tu l'as cassé, tu reprends les morceaux de verre, tu les fonds et tu refais un verre. Les paroles de la Torah, ça ne disparaît jamais. Même quand on croit que ça se casse, il suffit de réchauffer un peu la flamme de l'âme, ça réchauffe tout ça, ça refond et ça refait. Pour ça, c'est comme l'or et comme le verre. Alors qu'un diamant, quand il se casse, il ne peut rien récupérer. C'est pour ça que le roi Salomon a traduit ça en or et en verre. Si tu le voulais, tu pourrais tant récupérer tout cela. Après, j'étais sur son cheval, tu étais le maître. Il a dit, c'est intéressant ce que tu me dis, je vais réfléchir. Maintenant, tu ne me suis plus, tu t'arrêtes là. Il dit, pourquoi? Parce que c'est Shabbat et que tu ne peux pas dépasser cette limite. Il dit, comment je ne peux pas? Bah, tu sais très bien que Shabbat, on ne peut pas marcher plus d'un kilomètre en dehors de la ville. Vous savez, ça, c'est une loi même aujourd'hui. Si on va un Shabbat dans un petit village comme ça, paumé en campagne en France, on ne peut pas sortir à pied Shabbat, faire une promenade à plus d'un kilomètre du village. Ça, c'est une halakha, hein, c'est un truc global qui marche aujourd'hui partout. Simplement, nous, Parisiens, on n'a pas conscience, parce que pour sortir à un kilomètre en dehors de Paris et de la Grande Couronne, pour aller de Châtelet à Saint-Germain-en-Laye, un kilomètre après Saint-Germain-en-Laye, il faut vraiment marcher beaucoup le Shabbat. En général, on commence la marche et on termine après pour l'Avdala, donc il n'y a plus de problème. Mais à l'époque, dans les petits villages, on pouvait des fois dépasser d'un kilomètre. Mais ça, les kilomètres est passé, tu t'arrêtes là et tu peux plus me suivre. Dis-toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je prends mon cheval et je continue ma route. Il dit, écoute, viens avec moi, Beth Amidrash, je t'en prie, viens. Viens au moins essayer d'apprendre un petit peu. Alors Akhrem a dit, tu sais, l'autre jour, je passais comme ça devant une synagogue, et il y a une voix qui a parlé au fond de moi. J'ai très bien compris que c'était le bon Dieu qui me parlait, et qui a dit, tu vois, cet homme-là, Akhrem, il ne peut plus faire tes chouvas. Tu ne peux pas revenir. Il dit, écoute, c'est pas possible. Les portes du repentir sont ouvertes à tout le monde. Reviens, je t'en prie. Akhrem lui a dit, bon, ok, si tu me dis comme ça, je reviens, je t'accompagne. Il est descendu du cheval, il a été avec lui dans la synagogue. C'est Shabbat. Arrivé là-bas, Acher, qui connaissait très bien le principe qui dit que la vérité sort de la bouche des enfants, il s'est approché d'un enfant. Il a dit, qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui? Et l'enfant est balbutié. Il a dit, tes chouvas, c'est pas pour Acher. Mais en fait, en hébreu, ça veut dire, la teshuva, c'est toujours récupérable. Mais quand on balbutie, et qu'on veut pas écouter jusqu'au bout, on peut entendre, ça je vous ferai la phrase bien dite peut-être la prochaine fois, que la teshuva c'est pas pour Acher. Lui il a pas voulu entendre la fin de la phrase. Il a dit, tu vois qu'est-ce que je t'avais dit? Il a tout laissé tomber, il est reparti. Après on a appris plus tard un jour que Acher, c'est Rabbi Meir qui a appris ça, il a appris que Acher, son maître, était très malade. Alors Rabbi Meir est parti voir son maître et il a vu qu'il était à l'agonie à la fin de sa vie. Il a dit, écoute maître, maintenant que tu es à la fin de ta vie, au moins repends-toi un petit peu, fais teshuva. Il dit, pourquoi après bon Dieu me dise que j'ai fait teshuva parce que j'avais peur de mourir? Non, j'ai fait ça dans ma vie, j'irai jusqu'au bout. Et il est mort comme ça. Rabbi Meir, après, a prié toute sa vie pour que Acher puisse être accepté dans le jardin d'Éden. Et les prières de Rabbi Meir ont fait qu'on dit que la tombe de Acher sortait de la fumée. Et lorsque Rabbi Meir est mort, il a accompagné Acher et la fumée s'est arrêtée. Et Acher est entré dans le paradis avec Rabbi Meir. Comme quoi, même si quelqu'un ne peut pas faire ses cheveux tout seul, eh bien on peut toujours l'aider. À tel point que les Chachamim disent que, après la vie, lorsque quelqu'un monte là-haut, eh bien, il voit dans la vie tous les gens qu'il a vus dans le monde. Et tous ils disent, ah c'est toi, viens on t'accompagne. Et on dit, c'est pour ça que dans la vie, tu intéresses bien avec tout le monde, parce qu'après ça se récupère. Donc il vaut mieux être bien depuis le départ, comme ça au moins on est sûr qu'après on risque pas d'avoir de problème quand on arrivera, mais ils disent que c'est exactement comme ça que ça marche. Et juste pour terminer sur donc ce que dit Rabbi Meir, eh bien Rabbi Meir disait que dans la vie, il faut toujours considérer les choses avec un peu plus de recul que ce qu'on a depuis le départ. Un jour, il y a une femme qui est venue voir Rabbi Meir, une Goya. Il lui a dit, monsieur le rabbin, chez les juifs, on parle de résurrection des morts. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il dit, bien sûr, c'est vrai. D'ailleurs, on en a parlé nous la semaine dernière. Alors, elle a dit, monsieur le rabbin, quand ils vont se lever, les morts, et qu'ils seront vivants, ils seront comment? Tout nus ou habillés? Parce qu'enterré en général, on n'est pas fringué. Donc, quand ils vont se relever, ils seront comment? Tzniout ou pas tzniout? Ah, lui, il l'a vu comme ça. Il a dit, sacrée question, ça, j'avais pas pensé à ça. Il a dit, regarde, c'est très simple. Lorsque tu plantes un grain de blé, il est tout nu, c'est un grain de blé, tu le plantes. Lorsque le blé pousse et que tu veux le grain, il est entouré par 4 ou 5 écorces. Ce qui signifie que lorsque les gens vont se relever, ils seront vêtus de leurs plus beaux habits. Voilà. Elle est restée signée comme ça, subjuguée. Elle a dit, d'où tu gères ça? Elle a dit, si Dieu est capable de créer un homme, tu crois qu'il n'est pas capable de créer des vêtements? Alors elle est restée comme ça, un peu pensive. Elle est partie voir son mari. Elle a dit à son mari, j'ai rencontré un rabbin très bizarre. Il a la réponse à tout. Le rabbi dit, ah bon, il a la réponse à tout, le mari. Il dit, pas de problème, on va un petit peu voir ça, on va s'interroger un petit peu et tout ça. Rabbi Meir était avec ses élèves qui étaient autour de lui. Et le monsieur est venu le voir. Il lui a dit, dis-moi, Rabbi Meir, il est marqué dans la Torah que lorsque Dieu créa le ciel et la terre, il a créé en fait le ciel, et que le ciel c'est de l'eau. C'est pour ça qu'il pleut. Il dit oui, le ciel ce n'est que de l'eau. Il dit ah bon, et où tu vois que le ciel ce n'est que de l'eau, monsieur le rabbin? Il dit parce que le ciel s'appelle Shamaïm, et Shamaïm c'est Shamaïm, là-bas c'est de l'eau. Il y a les eaux d'en bas, et il y a les eaux d'en haut. C'est pour ça que quand il pleut, ben, ça vient de là-haut. C'est pour ça que dans le déluge, il y a marqué que les portes du ciel sont ouvertes et que l'eau s'est déversée. Une eau qui est enfermée là-haut. Or, dit Rabbi Meir à ce monsieur, si toi avec ton doigt, quand tu mets en haut de l'ampoule de Mac 2, tu empêches le Mac 2 de couler dans ton verre, et que juste comme ça, une petite pression du doigt, tu peux le faire, tu ne crois pas que le bon Dieu avec son doigt comme ça, s'il met le doigt sur le ciel, il va t'empêcher de le tomber? Il dit si, mais qui te dit qu'il n'y a que le bon Dieu là-haut? Il fait c'est simple. Dans le monde, on tourne où au maximum des chiffres? On tourne sur 7 jours. Et si on va un peu au-dessus, on a des fêtes de 8 jours et on a 8 jours de la Brit Mila. C'est tout. On n'a pas plus que ça. Donc c'est tout ce qu'il y a dans le monde, l'oxygène et l'azote. Il y a l'hydrogène, un, parce qu'il y a Dieu partout. Mais dès que tu sors de l'atmosphère, tu te retrouves qu'avec de l'hydrogène, un. Et là-bas, il n'y a que Dieu. Ça te montre que Dieu, il met son doigt sur l'ampoule et qu'il empêche que ça tombe. Et ce qu'il a fait au déluge, c'est que juste il a levé le doigt et c'est tombé. Mais sinon, il met le doigt et ça tombe pas. Tu vois comment c'est? Toi, tu es capable de faire quelque chose et tu t'étonnes que le bon Dieu le fasse comme ça sur un petit ciel, alors que le ciel, l'univers entier, c'est dans lui. Tu vois, il faut savoir réfléchir un peu avec la tête. Et que tu vas faire dans la Torah, les choses sont logiques. Il dit, oui, mais attends, il y a un truc que je comprends pas, monsieur le rabbin. C'est qu'à force de pleuvoir, le bon Dieu, quand il pleut, il lève bien un peu son doigt pour que ça tombe. Il dit, bien sûr, il lève un peu son doigt pour que ça tombe. Et bien justement, quand j'ai mon ampoule de Mac 2 et que je lève le doigt et que je fais tomber, elle va finir par se vider l'ampoule. Or, comment ça se fait que dans le ciel, ça s'est pas vidé depuis le temps? Alors, la réponse, c'est parce qu'il y en a plein. Il dit, il y a même s'il y en a plein, quand il pleut, il y en a moins. Or, si j'ai bien compris, on dit dans la Torah que le ciel est toujours le même. Sham, Maïm. Si bien que qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, il y en a toujours autant dessus. Donc explique-moi comment le bon Dieu peut lever son doigt, il pleut, et quand il met son doigt, il pleut plus, mais la bouteille elle est toujours aussi pleine. Explique-moi comment c'est possible. Rabbi Meir avait dit, tu t'étonnes des choses du bon Dieu, mais regarde déjà toi. Il fait, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Rentre chez toi et prends un bain. Mais t'as dit quoi? Prends un bain dans ta baignoire, tu fais une bonne baignoire et tu prends un bain. Il est rentré chez lui, il a pris un bain. Et il est sorti du bain, tu transpires. Vous savez, des fois, quand on prend un bain chaud, on ressort, on transpire. Même dans le bain, on transpire. Quand on le prend bien chaud, là, comme il faut. Il est sorti tout transpirant, commencé à s'essuyer. Rabbi Meir lui a dit, avant de te baigner, tu te pèses. Il s'est pesé, 75 kilos. Bon. Juste quand tu sors du bain, tu te repèses. Il est sorti du bain, il s'est séché, il s'est pesé, 75 kilos. Alors, Rabbi Meir lui a dit, tu vois, entre avant le bain et après le bain, tu pèses le même poids. Et bien, heureusement. Il dit, oui. Tu pèses exactement le même poids. Eh bien sûr, je pèse le même poids, je n'ai pas maigri dans le bain. Et pourtant, tu as transpiré. Et ça, ça pèse, puisque c'est de l'eau qui est dans le corps. Et l'eau, ça pèse. Vous savez que quelqu'un qui fait, par exemple, qui transpire bien, on a démontré que quelqu'un, par exemple, qui joue au tennis, peut des fois perdre en 2 heures 3 litres. 3 litres et 3 kilos. Hein. Alors, évidemment, quand on revoit, on les récupère. Mais 3 litres, 3 kilos. Alors, vous imaginez dans le bain, où on ne s'amuse pas à boire le bain, quand on perd la transpiration, on perd du poids. Et tu vois, t'es rentré dans le bain, tu t'es pesé, t'es sorti du bain, tu t'es pesé, et pourtant tu pèses le même poids. Et t'as transpiré. Pourquoi? Parce que toi, être humain, tu as une faculté de récupération qui fait que même si tu perds de l'eau, tu perds pas du poids. Et tu veux que le bon Dieu là-haut, parce qu'il fait un tout petit peu de pluie comme ça pour un petit peu arroser la terre, tu veux qu'il perde du poids là-haut dans la quantité d'eau, c'est pas possible. Tu vois bien que ce qui se passe chez toi, ça se passe là-haut. Alors il a dit, oui mais enfin, j'ai quand même encore un problème. C'est que tu vois, on dit dans la Bible que Dieu est dans l'univers entier. Et on dit dans la Bible que lorsque Moïse parlait à Dieu, il rentrait dans une tente et Dieu lui parlait juste dans le petit morceau, dans le petit endroit de la tente. Comment ça se fait que le bon Dieu si grand parle dans un endroit si petit? Comment ça se fait que le bon Dieu si grand veut qu'on lui fasse un temple si petit? J'arrive pas à comprendre. Tu vois, dans votre Torah, vous avez des choses qui ne sont pas compatibles. Alors Rabbi Meir lui a dit, tu sais ce que tu fais, va me chercher un miroir. Un miroir pour se maquiller. Tu sais, le miroir qui a grandi. Il est parti, il a amené un miroir qui a grandi les traits. Quand il s'est vu dans le miroir, il avait une grosse tête. Vous savez, les miroirs pour se maquiller, on a les yeux qui deviennent très grands dans le miroir. Après, il a dit, va me chercher un miroir qui rend plus petit. Il est parti chercher un miroir de sa grosse tête qui était normale, il a vu une tête toute petite dans le miroir. Vous connaissez ces miroirs qui rendent aussi plus petit? Il a dit, regarde, t'as un miroir qui t'a fait une tête plus grande, et un miroir qui t'a fait une tête plus petite. Est-ce que ta tête, elle a bougé? Ta tête, elle n'est pas devenue plus petite parce que le miroir, il fait plus petit, ta tête, elle est restée la même. C'est le miroir qui a déformé. Et le miroir, c'est quoi? C'est ce que tu vois. Donc quand tu vois le bon Dieu qui te parle dans un petit espace, c'est pas pour autant qu'il est dans un petit espace. Lui, il est grand, mais t'as mis un petit miroir. Comme ça, pour moi, tu peux voir. Puisque toi, tu veux voir en gros ce qui se passe dans ton œil, ou en petit ce qui se passe autour de toi. Donc tu mets des miroirs qui agrandissent ou des miroirs qui vont rétrécir. Mais c'est pour que toi, tu puisses voir. Mais c'est pas parce que dans ton rétroviseur de voiture, tu vois une voiture qui est petite comme ça, que quand elle passe à côté de toi, elle est comme ça, toute petite. Au contraire, des fois, c'est un gros camion. Pourquoi? Parce qu'on a voulu simplement te montrer quelque chose à voir. On a voulu que tu puisses bien voir. De la même façon, le bon Dieu, il a voulu se faire bien voir. C'est-à-dire qu'on puisse bien le voir. Et c'est pour ça qu'il est capable de parler dans un petit temple, tout en étant dans l'univers entier. Je t'ai répondu! L'autre est resté scié. Rabbi Meir lui a dit, de là, tu vas comprendre qu'on est capable de faire des choses fantastiques. Et c'est à partir du jour où il a eu cette conversation avec Acher et cette conversation avec ces gens-là qu'on l'a appelé Rabbi Meir Baal HaNes. Est-ce qu'un homme est capable de faire des miracles? Non. Le seul qui fait des miracles, c'est Dieu. Vous savez pourquoi on l'appelait Baal Hanes ? Parce que il savait que si Dieu est capable de tout, c'est parce que l'homme aussi est capable de tout. Parce que Dieu a conféré à l'homme une étincelle de son identité et qui fait que l'homme est capable de tout ce que à l'image de l'homme évidemment, tout ce que Dieu lui a donné. On est capable de tout. On peut tout être. Même ce qu'on peut même pas espérer être, on peut l'être un jour. On peut tout être. Et Rabbi Meir a fait comprendre à cet homme-là que tout ce qui paraissait incompréhensible à l'échelle de l'homme par rapport au cosmos se retrouve dans l'homme. Ce qui signifie que même si autour de toi, il y a des choses qui te paraissent incompréhensibles, impossibles à attraper, incontournables, sache que tu as en toi les forces de les avoir. Or, lorsque Rabbi Meir Bahanès discutait avec Acher, avec son maître, et que Acher s'était dérouté, il a quand même réussi à les faire revenir. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait confiance dans ce qu'il disait. Et lorsque Rabbi Meir, des gens venaient lui demander des brachot, comme on le verra peut-être dans la suite, j'avais beaucoup de choses à vous raconter sur lui, mais je n'ai pas le temps de vous le faire, eh bien les brachot marchaient à tous les coups. Lorsque quelqu'un lui demandait une bracha, ça marchait à tous les coups. Et c'est pour ça qu'on appelait Rabbi Meir Baal Hanes. Mais il ne savait pas faire de miracles. Il ne s'agit pas de ça, des miracles que Dieu qui les fait. Simplement, lorsque quelqu'un venait le voir, Rabbi Meir faisait comprendre à la personne que lorsqu'on lui faisait une bracha, il fallait y croire. Or, des fois, la bracha, on n'y croit pas trop. C'est sympa, j'ai une bracha. Un bagage de plus dans ma valise, en attendant que ça se remplisse. Mais non, une bracha, ça a déjà rempli. Une bracha, il faut y croire. Et lorsqu'on va prier Rabbi Meir, justement aujourd'hui, quand on fait l'Aïdoula, c'est quand on lui demande des brachot, on y croit. On dit, ah, si je demande à Rabbi Meir, ça va marcher. C'est vrai. Et si ça ne marche pas, c'est pas parce que la bracha est mauvaise. Ou c'est pas parce que Rabbi Meir, il a mal transmis le message, Chas v'Shalom. C'est parce qu'on n'y a pas cru entièrement. La leçon du Rabbi Meir Baal Hanes, la leçon de l'Aïdoula, c'est le fait de savoir, d'abord, qu'on peut tout demander, de la même façon qu'à Pessah Sheni, on met à la fois le pain et la matzah. Mais la leçon de Rabbi Meir, c'est de savoir que quand on demande une bracha, elle ne marche que si on y croit. Il faut croire et être convaincu que ça va marcher. Et quand on y croit et on est convaincu, ça colle. Et ce que Rabbi Meir faisait pour que ça marche, il faisait comprendre aux gens que lorsqu'on faisait une bracha, c'est pas lui qui leur faisait une bracha. C'est eux-mêmes qui demandaient à Dieu de les bénir et ils y croyaient. Et quand tu crois à quelque chose, ça marche. Le tout, c'est d'y croire. Alors voilà un petit message, Rabbi Meir, que je vais vous transmettre un petit peu ce soir, rapidement, avec encore mes excuses pour ce retard. C'est que donc Rabbi Meir, on voit un petit peu d'où il vient, on voit un petit peu tout ce qu'il a traversé dans sa vie, c'est pas quelqu'un qui a vécu une vie si rose que ça, loin de là, mais on voit aussi que si Rabbi Meir on l'a appelé Baal Hanes, c'est pas parce qu'il était capable de faire des miracles. Nul n'est capable de faire des miracles mis à part Dieu à Kadosh Baruch Hu. C'est parce qu'il était capable de faire croire aux hommes que dans leur vie, il pourrait y avoir un miracle. Et je vous assure que si demain soir, quand on a une bougie de Rabbi Meir Baal Hanes, on a vraiment en soi confiance qu'avec l'aide de Rabbi Meir, on sera capable de prier Dieu pour qu'il fasse pour nous des miracles, eh bien ces miracles arriveront. Le tout, c'est d'y croire. Et pour conclure, l'Agmara dit, Kamakdole Baale Amana, qu'est-ce qu'ils sont gros, qu'est-ce qu'ils sont grands les gens qui ont confiance. On dit que quelqu'un qui a confiance en Dieu, Dieu lui répond à l'échelle de sa confiance, comme on dit dans Birkat Amazon, Baruch HaGever HaShem Yiftach Hashem, heureux est l'homme qui a confiance en Dieu, Veria HaShem Yiftacho, parce que Dieu a lui aussi et lui donne sa confiance. Alors c'est donc si Dieu veut que demain, vraiment, on ait confiance de ces brachas, et qu'à chaque fois, il y ait confiance en nous pour pouvoir nous combler de ces brachot et nous confier toutes les choses dont on aura besoin. Amen, Kenny Ratson, merci.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'article. À bientôt.